RFI, il est midi temps universel, 13h ici à Paris, 14h à Gaza. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue.
RFI midi,
Charlotte Hydrac.
Les armes se sont tues à Gaza depuis ce matin, 11h15 local, entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas avec près de 3 heures de retard. Trois femmes israéliennes doivent être libérées cet après-midi en échange de détenus palestiniens. Le ministre israélien de la Sécurité nationale d'extrême droite, en désaccord avec la trêve, a démissionné. On revient sur ces derniers développements dans un petit instant et avec notre invité aussi, l'expert militaire Guillaume Ancel.
RFI.
À suivre aussi les préparatifs de la cérémonie d'investiture de Donald Trump aux États-Unis. Parmi les dirigeants européens, Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, est la seule à avoir reçu un carton d'invitation. TikTok inaccessible sur le territoire américain, le réseau social chinois interdit par la loi pour le moment. Et puis en France, le nouveau Front populaire de gauche fracturé après le refus des socialistes de voter la censure contre le gouvernement Bayrou. Jean-Luc Mélenchon estime là que le PS n'est plus un partenaire.
RFI Midi.
Du monde sur certaines routes de la bande de Gaza, des milliers de déplacés palestiniens ont pris le chemin du retour juste après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Trêve effective donc depuis 11h15 locale avec près de 3 heures de retard sur l'heure prévue au départ. Les premières libérations de 3 otages israéliennes sont attendues cet après-midi en échange de détenus palestiniens. Samy Bourlifa, on vous retrouve en direct de Jérusalem. Ce cessez-le-feu est accompagné du repli des forces israéliennes de certaines régions de la bande de Gaza.
Les troupes de l'État hébreu se retirent effectivement de certaines zones peuplées dans la bande de Gaza et aussitôt parties, les forces du Hamas ont défilé dans les rues, des hommes en armes à l'arrière de pick-up blancs. Un message clair adressé par le groupe armé palestinien aux autorités israéliennes. Après 15 mois de guerre, le Hamas est toujours maître de la bande de Gaza. Exténués par une guerre dévastatrice, les Gazaouis ont laissé pourtant éclater leur joie ce matin, avant même l'arrêt officiel des combats et des bombardements meurtriers, des célébrations que nous raconte Youssef, originaire de Gazaville et actuellement déplacé dans le sud.
Les gens sont sortis, ont fêté ça, il y a la joie dans la rue. Les gens vraiment essayaient de se remettre sur pied là pour... Tout le monde parle du retour. Plusieurs personnes ont essayé de y aller chez eux à Khan Younes, à Khouza'a et à Rafah. Mais c'était sous des tirs de l'armée, mais maintenant ça a rentré officiellement en vigueur le cessez-le-feu.
Voilà la joie des Palestiniens, Samy, l'attente des Israéliens aussi, dont les trois premiers otages devraient être libérés cet après-midi.
Avec un peu de retard, le Hamas a finalement transmis ce matin aux autorités israéliennes le nom des trois premières otages libérables. Il s'agit de trois femmes, trois civils âgés de 23, 27 et 30 ans. En contrepartie, Israël doit relâcher quelques 90 détenus palestiniens. Cet échange va se répéter chaque semaine pendant 6 semaines, jusqu'à la libération de 33 otages israéliens et de plus de 700 prisonniers palestiniens. À partir d'aujourd'hui, Israël lève également ses restrictions à l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Les premiers camions viennent de traverser la frontière.
Après donc l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, un accord qui ne fait pas l'unanimité au sein du gouvernement israélien. Michel Paul, vous êtes également à Jérusalem, également en direct. Le parti d'extrême droite d'Itamar Ben-Gvir a quitté la coalition du gouvernement ce matin. Le ministre de la Sécurité nationale a démissionné. Ça ne remet pas en cause, c'est ça, la mise en œuvre de l'accord, en tout cas pour sa première phase.
Oui, les lettres de démission d'Itamar Ben-Gvir et des autres ministres de son parti ont été déposées. Alors techniquement, il faut attendre 48 heures pour qu'elles entrent en vigueur. Son parti, la Force juive, quitte la coalition gouvernementale. Ben-Gvir a tenu parole. Il a indiqué qu'il démissionnait en raison de la signature de l'accord. La procédure engagée est dangereuse et irresponsable, affirme-t-il. Alors, cela n'affecte pas la mise en œuvre de la trêve, mais Benjamin Netanyahou se retrouve avec une majorité inconfortable de 62 sièges sur les 120 que compte le Parlement israélien, ce qui pose des risques pour sa survie politique. Pour plus de précautions, les trois ministères devenus vacants resteront aux mains du Likoud, le parti du Premier ministre israélien. Ce que Ben-Gvir, démissionnaire, n'a pas réussi à faire cependant, c'est d'entraîner derrière lui le parti du sionisme religieux, L'autre formation d'extrême droite du gouvernement, son leader qui a voté contre l'accord avec le Hamas, devient une opposition au sein même de la coalition. Bezalel Smotrich menace de faire tomber le gouvernement si Israël ne reprend pas la guerre dans 6 semaines.
Et Benjamin Netanyahou a prévenu hier, le cessez-le-feu est provisoire, dit-il. Il affirme que son pays garde le droit de reprendre la guerre si besoin. Et avec le soutien des États-Unis, le ministre israélien des Affaires étrangères, lui, a mis en garde tout à l'heure contre une persistance de l'instabilité régionale si le Hamas restait au pouvoir à Gaza. Israël maintient donc la pression. J'ajoute cette déclaration du pape François qui appelle au renforcement de l'aide humanitaire et globalement au respect de la trêve à Gaza. Cet accord que l'on continue de suivre avec nos correspondants et envoyés spéciaux. On y reviendra également dans quelques minutes avec notre invité Guillaume Ancel.
RFI Midi, Charlotte Hydrac.
Ce dossier du Proche-Orient sur la table du bureau ovale que Donald Trump s'apprête à retrouver demain, dernier préparatif à Washington pour la cérémonie d'investiture au Capitole dans un froid polaire. Et parmi les dirigeants européens, Giorgia Meloni est la seule à avoir reçu un carton d'invitation pour cette cérémonie. La chef du gouvernement italien d'extrême droite dit espérer devenir un pont entre Washington et l'Union européenne. Mais en Italie, il y a un certain scepticisme sur ce rapprochement à venir.
D'après le récent sondage de l'Institut YouTrend, 50% des Italiens pensent que la présidence de Donald Trump nuira à l'Italie. En particulier sur le plan économique, redoute Cristina, avocate en droit public.
Je crois qu'une hausse des droits de douane serait très néfaste pour des pays comme l'Italie, parce que l'Italie vit des exportations, notamment agroalimentaires.
Mais quid de l'entente privilégiée entre le milliardaire américain de 78 ans et Giorgia Meloni qui vient de fêter ses 48 ans. Domenico, buraliste, se montre dubitatif.
Je me demande à quel point on peut se fier à l'amitié entre Donald Trump et Giorgia Meloni. L'Italie n'a jamais eu une forte influence au niveau global. Selon moi, elle restera un pion entre les mains des États-Unis.
Pour Massimo, technicien de production, il est nécessaire que l'Europe retrouve sa cohésion.
J'ai peur pour l'avenir de l'Europe en cette période de montée de l'individualisme. L'Europe doit se réveiller.
Se réveiller et être attentive aux ambitions de la leader d'extrême droite, Giorgia Meloni, l'unique dirigeante européenne qui sera présente à la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Anne Lenir, Rome, RFI.
Le président américain a déjà promis qu'il comptait aller vite. Donald Trump a promis de signer un nombre record de décrets présidentiels dès sa prestation de serment, avec en haut de la pile son programme d'expulsion d'immigrés clandestins. Donald Trump a aussi évoqué un sursis de 90 jours pour l'application TikTok interdite aux États-Unis et c'est effectif ce dimanche. Les utilisateurs américains ne peuvent plus se connecter. L'application n'est plus disponible sur les boutiques numériques de Google et Apple. La colère des partisans du président déchu en Corée du Sud après la décision d'un tribunal de Séoul de le maintenir en détention. Yoon Suk-yeol est sous le coup de plusieurs enquêtes pour avoir tenté d'imposer la loi martiale début décembre. Des manifestants furieux donc ont fait irruption dans le tribunal en brisant des vitres et en forçant les entrées du jamais vu dans le pays. En France, quel avenir pour le NFP, le Nouveau Front Populaire, l'alliance de gauche divisée avec le choix des élus socialistes de ne pas voter la motion de censure contre le gouvernement Bayrou cette semaine. Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, invité du grand jury RTL M6 Le Figaro Public Sénat. Jean-Luc Mélenchon donc estime que le PS n'est plus un partenaire.
Nous sommes meurtris parce que nous nous sentons trahis. C'est une évidence. Qu'allons-nous faire maintenant ? C'est une des grandes questions qui est posée puisque le Parti Socialiste, à l'évidence, comme l'a dit Éric Coquerel, n'est plus un partenaire. C'est un allié et encore de circonstances. Puisque dans une motion de censure, c'est quand même fondamental. Vous savez que la censure, c'est ce qui distingue la majorité de l'opposition. Ce fait a l'air d'être considéré comme un détail, mais c'est une question de fond. C'est d'ailleurs pourquoi la vérité politique, madame, n'a pas éclaté cette fois-ci, puisqu'ils continuent à dire qu'ils sont dans l'opposition. Les socialistes, personne n'y comprend rien. Ils votent pas les censures, mais ils sont toujours dans l'opposition. C'est quand va arriver le vote du budget. Mais s'ils votent le budget et s'ils ne votent pas la censure du 49-3... pourra dire qu'ils ont rompu l'union.
Jean-Luc Mélenchon, donc de la France insoumise. Hier, le patron du PS, Olivier Faure, avait affirmé « Jean-Luc Mélenchon n'est pas le chef du nouveau Front populaire ». La politique est un sport de combat, d'autres genres de matchs avec vous, Cédric De Oliveira, dans votre journal des sports. Avant le foot, on va parler du tennis, des résultats de la nuit à l'Open d'Australie. Ça s'est bien passé pour Novak Djokovic.
Et le Serbe s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi en dominant le Tchèque Jiří Lehka en 3-7, 6-3, 6-4, 7-6. Il retrouvera Carlos Alcaraz pour un choc. L'Espagnol qui a profité, lui, de l'abandon du Britannique Jack Draper alors qu'il menait 2-7 à 0. Et puis, qualification aussi d'Alexander Zverev, le numéro 2 mondial, s'est débarrassé du français Hugo Humbert en 4 manches, 6-1, 2-6, 6-3, 6-2. L'Allemand retrouvera l'Américain Tommy Paul en quart de finale. À suivre la nuit prochaine, le numéro 1 mondial Yannick Sinner et un autre français, Gaël Monfils, opposé à l'Américain Ben Shelton.
En football, on joue la 18e journée de Ligue 1 ce week-end.
Avec un PSG toujours en tête et invaincu, hier les Parisiens sont allés battre Lens au stade Bollaert 2-1, malgré plusieurs cadres repos en prévision du match de Ligue des Champions cette semaine contre Manchester City. Ça n'était pas leur match le plus abouti de la saison, mais grâce à Fabian Ruiz et Barcola, ils ont réussi à inverser la tendance après l'ouverture du score de Nzola pour les Lensois. Rageant ce résultat pour l'entraîneur nordiste Will Steele, qui aimerait voir plus de caractère chez ses joueurs.
Ça, on savait depuis le début, mais c'est bien de parler de marge de progression et c'est bien de parler de potentiel. Mais à un moment, il faut en faire preuve aussi. Et il faut avancer, il faut passer des paliers, il faut passer des caps et on n'est pas encore capable de le faire. Donc, on est tombé contre une bonne équipe avec beaucoup de qualités individuelles et la qualité a fait la différence aujourd'hui. Non, je suis satisfait de tout le monde, hein, sincèrement, sur presque 85 minutes du match, tu fais des choses très très bien, cohérentes. Je ne sais pas s'il y a faute sur le premier but ou pas. Je pense que si c'est dans le sens inverse, on le sifflerait. Mais ça fait partie du foot et il faut qu'on en apprenne, il faut qu'on arrête de faire des erreurs comme ça et il faut qu'on avance surtout.
Will Steele, l'entraîneur lensois, au micro de nos confrères de Bein Sport. A noté Charlotte hier la nouvelle défaite de Rennes face à Brest 2-1 et le match nul entre Lyon et Toulouse 0-0.
Et ça continue ce dimanche, 4 rencontres au programme.
Et notamment le match de Marseille qui est deuxième de cette Ligue 1 à provisoirement 10 points du PSG. Les Phocéens retrouvent Strasbourg qui est 9e pour se remettre un petit peu la tête à l'endroit. Ils ont été éliminés cette semaine en Coupe de France par Lille et c'est donc une chance de remporter un trophée qui s'est envolé. Désormais, les Marseillais sont donc concentrés sur le championnat. Ce sera dur d'aller chercher le titre face au PSG, mais ils visent au moins le podium pour se qualifier pour la Ligue des Champions, selon l'attaquant Nil Mopay.
Bien sûr que on est déçus d'être éliminés de la Coupe. On est tous soudés et on est tous tournés vers le même objectif qui est de la qualification en Ligue des Champions et de finir le plus haut possible. Donc je pense pas que ça puisse nous affecter. On avait à cœur de bien faire, mais la saison, ça s'arrête pas là. Et si on atteint nos objectifs et on fait une bonne deuxième partie de saison en championnat, ça sera quand même une bonne saison. Je vais pas vous dire ce qu'on se dit dans le groupe, mais depuis quelques mois, on est tous sur la même longueur d'onde. On travaille tous ensemble et je sens que le groupe est fort mentalement.
Nil Mopay avant Marseille-Strasbourg, coup d'envoi à 18h45, temps universel à suivre également. Angers-Auxerre, Reims-Le Havre et Saint-Etienne-Nantes. Et puis en Angleterre, 22e journée de Première Ligue. Manchester City est sur le pont avant d'affronter le PSG, justement en Ligue des Champions. 8e seulement, les Citizens affrontent Ipswich à suivre également. Manchester United-Brighton, Nottingham Forest, Southampton et Everton-Tottenham. Je rappelle que le leader, c'est Liverpool.
Cédric De Oliveira, merci. 13h13, merci de nous écouter sur RFI. Retour sur l'accord de trêve à Gaza. Cette trêve qui est donc entrée en vigueur ce dimanche avec près de 3 heures de retard qui prévoit, l'accord prévoit notamment une libération de 3 otages israéliennes dès cet après-midi. Bonjour Guillaume Ancel.
Bonjour.
Ancien militaire, écrivain, auteur du blog Ne pas subir, auteur également de Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette. Merci d'être avec nous. Alors, il y a eu quelques heures de confusion ce matin sur le cessez-le-feu initialement prévu à 8h30 local, lié à un retard de la publication des noms des premières otages israéliennes libérables, retard d'ordre technique selon le Hamas. Est-ce que vous pensez, Guillaume Ancel, que cet accord qui va s'étaler sur plusieurs semaines peut tenir, que ce plan peut être respecté ?
Les retards de ce matin n'ont aucune importance par rapport à l'enjeu de cet accord. Mmh. Et à mon avis, cet accord tiendra. Pourquoi ? Parce que c'est Donald Trump qui l'a voulu. Et il impose sa volonté à Benjamin Netanyahou, ce que n'avait absolument pas su faire le président Joe Biden avant lui, qui était un président beaucoup d'incertitude dans sa capacité à imposer justement ses décisions ou ses non-décisions. Donald Trump a annoncé dès mercredi qu'il avait trouvé il avait trouvé un deal sur les otages et par conséquent, il ne laisse pas le choix à Netanyahou. On voit bien que le premier ministre israélien a essayé de montrer que ce serait peut-être compliqué puis qu'il fallait encore négocier, mais en réalité, s'il n'avait pas accepté cet accord, s'il n'était pas rentré en vigueur, il humiliait le président Trump, dont l'investiture a lieu demain. Mmh. Et par conséquent, on avait l'assurance qu'il rentrerait en vigueur, même si ça s'est fait avec quelques heures de retard. Mais qu'est-ce que c'est après 15 mois de guerre et plus de 100 000 bombardements contre la bande de Gaza ?
Benjamin Netanyahou a tout de même averti hier, hein, il affirme que le cessez-le-feu est provisoire, que son pays se garde le droit de reprendre la guerre si besoin et avec le soutien des États-Unis. Alors que vous le disiez, Donald Trump sera investi demain. Qu'est-ce que vous pensez de cette rhétorique ?
D'abord, Netanyahou a besoin vis-à-vis de ses plus extrémistes de montrer qu'il garde la main et le contrôle. Mais Donald Trump a déjà annoncé qu'il ne voulait pas de la guerre, que c'était un bad business. Et par conséquent, même si Israël conservera le droit d'intervenir militairement, mais sporadiquement, comme il le fait actuellement d'ailleurs au Liban, où il y a un cessez-le-feu qui court maintenant depuis presque 2 mois.
Mais violé régulièrement.
En fait, la dynamique de la guerre s'arrête. Par contre, il faudra des mois pour que vraiment elle s'éteigne. Et ça n'est pas parce que la guerre s'arrête qu'on aura rétabli la paix pour autant.
Certains soupçonnent Benjamin Netanyahou de saisir le moindre prétexte pour reprendre les opérations militaires à Gaza une fois que les otages israéliens seront libérés. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ce sera compliqué parce que les otages doivent être libérés au fur et à mesure de la première phase, en tout cas pour les 33 premiers, qui va durer 6 semaines. Par conséquent, si Netanyahou se permettait d'interrompre ce cessez-le-feu, vraiment de l'arrêter complètement, il se retrouverait face à la société israélienne qui ne comprendra pas pourquoi on ne finit pas de libérer les otages, et puis surtout face à Donald Trump qui ne lui pardonnera pas de ne pas lui faire tenir parole. Trump s'est engagé au fait que la guerre allait se terminer, que les otages seraient libérés.
On en parlait dans le journal, des milliers de déplacés palestiniens ont pris le retour du chemin du retour dans la bande de Gaza ces dernières heures, le territoire qui est ravagé après 15 mois de guerre, des dizaines de milliers de morts. Est-ce que c'est pour vous le début d'une dynamique, d'abord vers une reconstruction et éventuellement une solution pérenne dans le territoire palestinien ?
Pour les Palestiniens, c'est évidemment un immense soulagement. On n'arrive pas à imaginer ce que c'est que d'avoir subi plus de 100 000 bombardements. Normalement, un bombardement fait au moins 1 mort et 3 blessés et demi. Par conséquent, on a au moins autant de morts et de blessés. Donc pour les Palestiniens, le fait que ce pilonnage intensif qui durait encore ce matin, hein, jusqu'au début de la trêve, s'arrête, c'est déjà un immense soulagement. Toute la question du jour d'après, de la reconstruction, est nettement plus complexe parce que il faudra d'abord résoudre le problème de la gouvernance. Oui. Qui va contrôler Gaza ? Et ensuite, seulement quand la situation politique sera stabilisée, on pourra commencer à reconstruire un pays qui a été complètement dévasté et pollué par cette guerre. Il y a des milliers d'explosifs qui n'ont pas fonctionné. Tout est pollué jusqu'à l'eau. Donc c'est une reconstruction énorme qui nécessitera, à mon avis, au moins une décennie et des dizaines de milliards de dollars.
Le ministre israélien des Affaires étrangères a mis en garde ce matin contre une persistance de l'instabilité régionale si le Hamas restait au pouvoir. Vous l'évoquiez, hein, cette question de la gouvernance de la bande de Gaza est en suspens.
Dans les circonstances, il n'est pas imaginable que le Hamas reste au pouvoir à Gaza. C'est eux qui ont déclenché l'attaque terroriste du 7 octobre contre Israël, qui a été le détonateur de cette guerre. Et par conséquent, pour moi, ils ont perdu toute crédibilité à pouvoir gouverner un territoire. Non, la question qui se pose maintenant, c'est au-delà de Gaza, c'est aussi la Cisjordanie. Mmh, et bien sûr, occupé. C'est de pouvoir enfin former un État palestinien qui puisse discuter avec l'État israélien, sans être uniquement dans le désir de revanche.
Mais avec qui alors l'autorité palestinienne a été relativement absente ces dernières années ?
C'est vrai, mais avec qui ? Ça concerne aussi Benjamin Netanyahou. Je ne le crois pas capable de pouvoir construire positivement quelque chose avec les Palestiniens, et ce sera aux Israéliens de décider maintenant qui ils veulent au pouvoir pour construire une paix durable, ce que ne sait pas faire Benjamin Netanyahou.
Guillaume Ancel, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui des capacités militaires du Hamas après ces 15 mois de guerre ?
En fait, elles ont toujours été assez réduites et en même temps, elles sont impossibles à effacer. Car le Hamas n'a jamais eu réellement une armée, contrairement au Hezbollah, ce sont des miliciens. Et un milicien, par nature, c'est quelqu'un qui prend une arme à un moment et qui se bat. Par conséquent, avoir fait croire aux Israéliens qu'ils pouvaient se débarrasser du Hamas avec uniquement une offensive militaire, c'est comme de chasser des fantômes avec un crucifix.
Merci à vous, Guillaume Ancel. Je rappelle votre blog « Ne pas subir » et votre livre « Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette ». Et je rappelle ce dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas depuis le début de la guerre à Gaza, bilan de 46 913 morts.
RFI. Le Monde à midi.
J-1 donc avant l'investiture de Donald Trump aux États-Unis, le président américain qui a annoncé un programme choc, notamment des expulsions massives de migrants et des mesures qui risquent de compliquer les démarches de demande d'asile. Cela inquiète dans la ville mexicaine de Ciudad Juárez sur la frontière américaine. Cette ville où se trouve notre correspondante Gwendolina Duval.
Le pont international de Ciudad Juárez est l'un des principaux points d'entrée vers les États-Unis. Au milieu du pont, à côté des voitures, s'est formée une file de plus d'une centaine de personnes avec leurs bagages et des papiers à la main. Ce sont des migrants qui ont obtenu un rendez-vous cet après-midi pour déposer une demande d'asile.
J'ai mon passeport, la confirmation du rendez-vous et le mail qu'on m'a envoyé.
Adriana Flores est salvadorienne. Cette infirmière a tout quitté pour tenter sa chance du côté américain. Elle descend tout juste de l'avion depuis la capitale mexicaine où elle a attendu 4 mois avant de décrocher un rendez-vous.
J'ai été très heureuse quand c'est arrivé, car avec le nouveau président qu'il va y avoir, j'avais peur que le rendez-vous n'arrive jamais. Je doutais, mais grâce à Dieu, j'arrive à temps. Aujourd'hui, je suis là.
À ses côtés, des Vénézuéliens, Haïtiens et Mexicains pourraient bien être parmi les derniers à passer aux États-Unis via cette procédure de CBP One. À la moitié du pont, deux agents de l'immigration américaine vérifient les identités de ceux qui ont un rendez-vous avant de les laisser continuer d'avancer. Alicia González, son mari et sa fille viennent de l'état de Michoacán, au Mexique.
Je suis très nerveuse car je ne sais pas ce qui nous attend.
Ça fait un an qu'ils attendent de partir pour fuir l'insécurité.
Justement, le mandat de Donald Trump va commencer et qui sait comment ça va se passer pour nous là-bas.
Comme tous ceux qui veulent aller aux États-Unis, elle est inquiète des menaces de Donald Trump qui a promis de lancer un plan d'expulsion massive. Un agent de l'immigration américaine s'approche et me lance cette remarque.
Pour qui vous travaillez? Si j'étais vous, je viendrais lundi.
Dans le centre-ville de Juárez, les migrants sont peu nombreux. L'endroit a mauvaise réputation et beaucoup craignent les enlèvements contre rançon. Mais assis sur un kiosque, on rencontre Émilie Diaz. Elle attend encore une chance de faire une demande d'asile.
Nous, on essaye ici et à Tijuana. Sans succès pour l'instant.
Arrivée dans le nord depuis 20 jours, elle se plaint de douleurs accentuées par le froid qui avoisine les 0 degrés ici. Cette Vénézuélienne emmène avec elle une amie et 4 enfants. Elle vend des bonbons dans la rue pour payer quotidiennement sa chambre d'hôtel. Émilie raconte être confuse par toutes les fausses informations qui circulent.
Comme l'investiture est le 20, on nous a dit qu'ils allaient ouvrir la porte le 19. C'est une rumeur.
Tu penses essayer de passer ?
Pourquoi pas ? Je préfère attendre le rendez-vous. Mais si ça ne donne rien, certains disent qu'ils se livrent aux autorités. Je ne sais pas quoi faire.
Gwendolina Duval, Ciudad Juárez, RFI. Et Ciudad Juárez, où les autorités mexicaines annoncent qu'elles vont fermer un tunnel qui a été découvert, un tunnel pour passer vers la ville américaine d'El Paso, dissimulé dans un collecteur d'eau de pluie. La Russie ne l'a jamais reconnu, Pyongyang non plus. Silence radio, mais selon l'Ukraine, les États-Unis et la Corée du Sud, quelques 10 000 soldats nord-coréens sont actuellement déployés aux côtés de l'armée russe dans le conflit en Ukraine, dans la région frontalière de Koursk. Selon Séoul, environ 300 de ces militaires ont déjà été tués sur le front et cette alliance Moscou-Pyongyang inquiète en Corée du Sud. Ligne de défense, une chronique signée Franck Alexandre.
Preuve irréfutable de cette présence nord-coréenne, Kiev a diffusé le 11 janvier dernier les images de deux prisonniers. Cette semaine, le NIS, le renseignement sud-coréen, nord-coréen, auditionné par le Parlement à Séoul, a admis avoir participé à leur interrogatoire, nous dit notre confrère Stéphane Lagarde, de passage en Corée.
Selon certains députés, donc il y a eu des choses qu'on filtrait, l'agence de renseignement sud-coréenne aurait pointé surtout d'abord une préparation au terrain, ce qui expliquerait ces pertes importantes de ces nord-coréens qui n'ont pas l'habitude, notamment des grandes plaines comme ça, ils étaient dans des zones découvertes visiblement. Et puis, manque de préparation aussi à la guerre moderne et avec les drones. On a vu aussi les images, évidemment, dans la presse sud-coréenne, des deux soldats capturés, donc l'un aux mains bandées, l'autre au visage avec une bande sur le menton. Ce sont des soldats dévoués au pouvoir nord-coréen. Le média TheFact.kr, par exemple, pointe ces images d'un soldat nord-coréen avant de mourir qui dégoupille une grenade et crie « Vive le général Kim Jong-un !» Donc, voilà des ordres de ne pas se laisser prendre, quoi.
L'implication de la Corée du Nord constitue une escalade majeure et inquiète vivement Séoul, relève encore Stéphane Lagarde.
Il y a d'abord la crainte d'une délocalisation, d'un conflit européen dans le nord-est asiatique, et puis surtout de l'échange qui a dû y avoir derrière. Pyongyang est sorti de l'isolement post-Covid avec cet accord avec la Russie, avec cet envoi de soldats nord-coréens en Ukraine. Forcément, il y a dû y avoir un deal derrière, et donc ici on s'inquiète de ce qui a été donné par la Russie en matière technologique, en matière de renforcement de l'arsenal nord-coréen.
Mais quelle contrepartie dans la balance ? Beaucoup de capacitaires et une bonne dose de diplomatie, estime le chercheur en relations internationales Cyril Brett.
Les contreparties diplomatiques avec un soutien du veto russe au Conseil de sécurité des Nations Unies et sur d'éventuelles négociations nucléaires avec l'administration Trump 2. Évidemment, des contreparties capacitaires avec le transfert d'équipements de défense antiaérienne russe. Évidemment, une mutualisation des retex d'aguerrissement sur le théâtre européen. Et puis probablement également des échanges d'informations grâce à la couverture satellitaire que la Russie opère sur la plupart des champs connexes à son territoire national. Ça dit la crainte des Coréens du Nord de trop dépendre de la République populaire de Chine, puis ça dit la crainte des stratèges russes d'être vassalisés ou relégués comme brillant second de la République populaire de Chine.
Pyongyang, lié à Moscou par un pacte de défense mutuelle ratifié en novembre, apparaît donc comme un troisième acteur du conflit ukrainien, à même de déstabiliser les équilibres jusqu'en Asie.
RFI dans 3 minutes, toute l'actualité africaine, mais d'abord un coup de cœur de Sophie Torlotin au cinéma, le film d'animation Mémoire d'escargot, deuxième long métrage de l'Australien Adam Elliott. Et c'est donc un petit bijou d'animation.
Papa disait que l'enfance, c'est comme quand tu as trop bu.
Alouette.
Tout le monde se souvient de ce que tu as fait. Sauf toi.
Grace a bien des malheurs. Orpheline de mère, elle doit surmonter aussi le deuil de son père et vivre séparée de son frère jumeau, envoyé à l'autre bout de l'Australie. La jeune fille au teint blafard et aux yeux tombants, moquée pour son bec de lièvre, se raccroche à une passion, sa collection d'escargots.
Les services sociaux sont venus nous chercher.
Le réalisateur Adam Elliott.
I love how snails, you know, they're very metaphorical, symbolic as well.
J'aime les escargots. Ce sont des animaux très métaphoriques, symboliques. Cette coquille en forme de spirale peut représenter le cercle de la vie. Et puis, il y a aussi le fait que leurs antennes se rétractent quand on les touche, comme la tortue se retire dans sa carapace. C'est logique que le personnage de Grace ait une connexion avec les escargots.
Petit doigt a été ma première véritable amie.
Grace se replie dans sa coquille et raconte sa vie, justement, à un gastéropode. Une vie de malheur, juste éclairée par son amitié avec Pinky, surnommée Petit Doigt, une vieille dame excentrique.
Même dans les situations les plus sombres, il y a un peu de lumière, d'espoir et d'humour pour aider les gens à survivre à des situations tragiques. Je veux que les spectateurs sortent du film épuisés, qu'ils passent par tous les états émotionnels. Je veux qu'ils rient puis qu'ils pleurent. Ce n'est pas un film pour les enfants, mais vraiment pour les adultes. Il y a des scènes dérangeantes, beaucoup de personnages meurent, mais cela se termine bien.
Fourmillant de trouvailles et d'inventions, ce film est d'autant plus remarquable qu'il est réalisé en animation avec des personnages de pâte à modeler.
J'aime l'animation en stop motion car on voit que c'est fabriqué à la main. Pour ce film, nous avons tout conçu nous-mêmes. Il n'y a aucun effet spécial. On bouge chaque personnage 24 fois juste pour fabriquer une seconde. On a mis 32 semaines pour réaliser le long métrage. Cela nous a pris plus de 4 mois pour créer les quelques 200 décors. Cela nous a pris du temps, beaucoup d'argent. Dans le générique de fin, on précise que ce sont des êtres humains qui ont fabriqué le film, afin de rappeler aux spectateurs qu'aucune machine ne peut remplacer ce savoir-faire.
Un savoir-faire au service d'une histoire très noire, mais aussi très tendre. Une ode à la résilience qui a justement remporté le plus grand prix du dernier Festival international d'animation d'Annecy.
Sophie Torlotin sur RFI.